Donc, première synthèse sur nos différents ateliers. Françoise m'a demandé de faire ça très rapidement, c'est-à-dire pas plus de 45 minutes pour la première synthèse. Donc, tout feu, tout flamme pendant 45 minutes, c'est ça ? Très bien. Alors, pour ne pas prendre du temps sur nos collègues qui ont plein de données à nous présenter ensuite, ça a commencé assez difficilement notre atelier, mais en tout cas sur des questions très positives, sur une prise de conscience quand même collective. Je ne suis pas sur l'ATP, mais j'y viens. Quand même de ce qui se passe actuellement sur ces journées, sur cette prise de conscience de la synergie qui s'opère actuellement ou qui commence à se mettre en place entre recherche, formation, la possibilité de voir réellement cette activité dans les ZEP, au plus proche des élèves, des enseignants. Et je crois que là, tout le monde est assez convaincu quand même de la nécessité de poursuivre ce mouvement-là. Et certainement de pouvoir mutualiser encore plus, de pouvoir créer des ressources pour être de plus en plus efficace dans cette orientation-là et accompagnement. Alors, ce qui apparaît là, il y a une demande qui est très nette, c'est peut-être si la recherche favorise, c'est un peu général, j'en ai conscience, mais je vais vite venir aux ATP, si la recherche favorise l'ouverture à l'activité réelle, la mise en exergue des interactions quotidiennes, la modélisation éventuellement de gestes professionnels comme la co-animation, la co-intervention hier, il nous manque à tous, en tout cas, une vision claire de l'espace national, de l'organisation, des structures nationales, puisqu'on est tous en train de constater l'idiosyncrasie, la singularité de chaque rare. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment une connaissance claire des missions, de la diversité des missions, de la façon dont s'opèrent des formations à l'intérieur de ces rares. Alors là, c'est vrai qu'on renverrait assez facilement cette question-là aux personnes responsables au niveau de la DGESCO qui pourraient ici avoir un regard complémentaire. Il me semble que d'une façon ou d'une autre, il faudra qu'on vous sollicite par rapport à ce questionnement-là. Ensuite, venons-en à l'ATP. Hein, je ne sais pas si vous préférez attendre un peu, faire un point à un moment donné sur ces questions. Venons-en à l'ATP. On sait, dans un premier temps, on a constaté avec un peu de désarroi que cette question sur les méthodes, cette question-là, de ce dispositif-là, renvoyait à des questions presque séculaires ou moins pluridécennales concernant les méthodologies, sur un peu des questions d'apprentissage. On a reparlé en quelques instants, vous imaginez, de métacognition, de prise de conscience, de réussir et comprendre, du poids de la verbalisation, de l'abstraction réfléchissante. Voilà, on a fait le catalogue, et encore là j'en donne quelques exemples, des méthodologies, et on s'est posé la question de comment faire pour arriver à créer quand même dans un établissement une sorte de socle commun, de répertoire ou de référentiel commun, pour que les gens aient quelques idées communes, quelques repères communs sur apprendre à l'école, en sachant quand même qu'on est largement traversé par ces questions-là dans les IUFM ou dans les espaces de formation, mais qu'après, sur le terrain, quid des outils qu'on pourrait organiser, en sachant que ces outils-là dépendent d'un certain nombre de présupposés par rapport à l'apprentissage. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais il est nécessaire quand même, peut-être que les professeurs référents impulsent. Et on parlait bien ici, hein, dans cette autorisation à prendre un peu des décisions, à faire des choix dans les établissements, les professeurs référents ont certainement ici un engagement, une responsabilité pour pouvoir organiser un peu, envisager un certain nombre de lectures, de pistes, mais sans être des donneurs de leçons, mais proposer un certain nombre de référentiels communs pour une équipe travaillant sur l'ATP. Puisqu'on peut imaginer qu'une ATP peut tourner complètement à vide, c'est-à-dire une sorte d'espace méthodologique, mais complètement décalé par rapport à ce qui se joue dans les cours. D'aucuns ont remarqué également que l'inverse pouvait être envisageable, c'est-à-dire qu'en fait, un bon cours favorise une sorte de méthodologie embarquée sans qu'on soit obligé de créer cet espace supplémentaire. Et c'est bien ici aux professeurs référents de jouer dans ce sens-là pour créer une sorte de synergie collective sur cet espace nouveau. J'ai presque fini. Hein. Je voudrais aussi insister sur les valeurs éthiques. On a commencé à repérer des gestes professionnels, mais on voit que la façon d'écouter les élèves se fonde sur une éthique, sur un respect des élèves, sur de l'empathie, sur de la confiance, sur une relation très proche qui détonne, qui contraste souvent par rapport à ce qu'on peut voir dans des grands groupes. Moi, j'y vois une double synergie ou un double espace positif, presque de réparation, autant pour les élèves décrocheurs qui vont peut-être trouver quand même, à un moment donné, au-delà des méthodologies et des risques méthodologiques dont j'ai pu parler juste avant, un espace de remise en confiance, pour créer de la relation nouvelle avec des enseignants. Mais j'y vois aussi un espace très positif pour les enseignants débutants, décrochés ou décrocheurs. J'insiste sur ce point-là, dans certaines académies, pour pouvoir se reconstruire aussi et obtenir peut-être des relations pérennes avec des élèves qui les font souffrir dans des cours normaux. Et je crois que c'est quand même... Alors, ça montre bien que si tout se passait bien, on n'aurait pas besoin d'avoir ce type de dispositif-là, mais qu'il est peut-être encore une fois positif pour les élèves décrocheurs, mais aussi pour les enseignants un peu en difficulté. C'est peut-être un moment, avec moins d'élèves, dans des relations privilégiées, qu'on peut se donner de nouveau des repères pour pouvoir revoir le métier avec un peu d'optimisme. Et en fait, je terminerai sur cette idée. On s'aperçoit que par rapport à hier, où on montrait Zouir et Maxime, hein, nos deux professeurs de mathématiques vedettes qui montraient comment l'un faisait un cours un peu académique et l'autre occupait des places, des fonctions dans des interstices même de cours, qu'ils ont créé une sorte d'ATP individualisé, ou en tout cas embarqué, synchrone avec un cours orthodoxe, ou en tout cas un cours plus académique. Donc il nous semble possible peut-être de voir que cette ATP, pour l'instant, elle est peut-être confinée ou déléguée dans des espaces particuliers, mais qu'il faudrait réinterroger la fonction, la place de ces façons d'intervenir au sein même d'un cours plus académique. Bon, tout ça pour vous dire que, c'est pas très clair, hein, mais qu'il y a peut-être la possibilité de réinterroger dans cette nouvelle professionnalité les espaces d'intervention, les formes d'intervention, en sachant quand même que régulièrement, dans des rares, les classes sont autour de 16 élèves et qu'un certain nombre de modalités qui pourraient être simplement favorisées dans les ATP pourraient être réinjectées dans des cours ordinaires.
J'ai dit quoi ? Je pense que la taille de l'effectif que tu viens de donner suscitait quelques interrogations.
Non, non, moi je passe mon temps à être dans des classes à 16 élèves à Créteil. Excusez-moi.
C'est un tropisme cristallien.
Oui, non, bon. On passe notre temps à avoir des classes entre 16 et 20, grand maximum, et plutôt 16. Bon. Excusez-moi pour cette réaction. Voilà. Donc des questions méthodologiques, de fond au niveau théorique, des questions simplement d'organisation des structures et des espaces, et des questions pour moi de formation des enseignants débutants à l'intérieur même de ces espaces privilégiés. Excusez-moi, j'étais trop long.
Non, c'est très bien. Oui.
Il y a de l'orage.
Est-ce qu'il y a des questions, oui, peut-être par rapport à l'exposé de Luc, des réactions, ou on enchaîne directement
On enchaîne.
La première intervention que tu as faite sur le lien recherche, etc., il faut la renvoyer à la fin de la journée.
Bien sûr.
Oui.
Bien, donc c'est Bruno.
Bien. Alors le groupe 2. Alors, comme on pouvait s'y attendre, on ne peut pas dire qu'on ait des réponses très construites à chacune des quatre questions fort modestes auxquelles nous avions à répondre. Alors, en revanche, on a beaucoup échangé, et en particulier les diverses approches qui se sont exprimées autour de quelques questions telles que qu'est-ce qu'apprendre, comment apprendre, dans quel lieu apprendre, ont révélé en fait de grandes tensions qui existent autour de ce dispositif d'ATP et en même temps l'opacité de ce dispositif pour les enseignants dans un premier temps et bien entendu à plus forte raison pour les usagers, quels qu'ils soient, élèves, parents et autres. Et donc ces tensions en fait nous semblaient donc finalement une bonne entrée pour être au cœur des préoccupations du métier, même si au départ ce dispositif paraît être un dispositif un peu périphérique, hein, cet ATP, un dispositif ancien, il y a plus de 20 ans qu'il existe des aides méthodologiques ou autres. Et en fait, c'est toujours quelque chose qui est complètement d'actualité et qui est, au fond, une bonne façon de faire entrer les collègues dans des vraies questions sur leur activité professionnelle. Et donc, comme dans notre groupe, on a bien dit que ça posait toutes sortes de problèmes de formation, puisque ces enseignants paraissent tout à fait démunis sur ces questions-là. Du coup, ça renvoie à une question essentielle qui est, au fond, pour nous, l'articulation entre le travail qui est fait dans la classe et le travail qui est fait hors de la classe, qui est certainement un des points très importants sur lesquels il va falloir amener les collègues à réfléchir et peut-être la recherche à produire ou à continuer à produire des choses. Donc finalement, c'est cette nécessité de lieu et de moment d'échange autour de ce dispositif d'ATP, d'abord pour penser ce dispositif, puisqu'on voit bien à quel point il y a des désaccords sur les questions de fond qui fondent ce dispositif, donc besoin d'échanger, pour peut-être avoir une certaine souplesse dans le dispositif, mais après aussi encore des lieux et des moments d'échange pour le faire fonctionner, ce dispositif, puisqu'on a bien mis en avant toutes les difficultés qu'il y avait dans les relations entre le collègue ou la personne qui assure l'ATP et le collègue disciplinaire de la classe. Donc, des lieux pour le penser et des lieux pour le faire vivre. Et en même temps, ce danger que ce dispositif, avec beaucoup d'autres dispositifs finalement périphériques, laisse penser que ce n'est pas en classe qu'on apprend, puisque finalement, il y a de l'aide individualisée pour apprendre, il y a de l'ATP pour apprendre, il y a du soutien scolaire, et donc ce n'est peut-être pas en classe qu'on apprend. Donc là, il y a un vrai danger, d'où cette idée qu'il faut bien remettre l'action de la classe au centre des préoccupations de l'enseignant et du projet. Mais en pensant peut-être davantage que ceux qui ont réussi à le faire tout le temps, ce qui se passe en classe, en lien avec justement ces autres temps, ces autres moments de travail, aussi bien dans les autres dispositifs qu'à la maison pour l'élève. J'ai à peu près terminé. Une difficulté qu'on a aussi bien identifiée, c'est finalement le fait que pour un professeur, il est extrêmement difficile de prendre des indices sur les difficultés d'apprentissage de ses élèves. Et que peut-être l'ATP, ben, entre autres quand il a une grande classe, bon voilà, c'est la fiction du groupe qui avance, et puis bon, on prend quelques indices. Et c'est cette idée que l'ATP, justement par le groupe restreint, entre autres, pourrait être un lieu privilégié de prise d'indices sur les difficultés des élèves. Hein. Et donc pas seulement un lieu où on apporterait des réponses, mais aussi un lieu qui permettrait à l'enseignant d'identifier des difficultés. Et une autre idée, bon, c'est une tentative de synthèse, il y a peut-être des gens qui ne vont pas se reconnaître dans tout ce que... Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas dites. Et puis, en fait, on a terminé aussi sur cette idée, quand même, en particulier pour les adolescents dont on parle là, dans l'ATP, d'une charge affective très forte sur les questions d'apprentissage. Et on a terminé par un moment très agréable que je me garderai bien de reproduire parce que j'en serais incapable, d'un collègue qui nous a mimé une scène avec donc un adolescent à qui on laissait une clé pas trop loin et en espérant que peut-être il allait l'attraper, hein. Et je crois qu'il y avait là aussi une belle image sur les formes d'aide possibles et ce que c'est que accompagner, hein. C'est peut-être pas tendre l'outil du premier coup, c'est peut-être aussi lui laisser la possibilité d'en avoir un peu envie et besoin en acceptant que peut-être des fois il n'ira pas la chercher. Voilà.
Merci Bruno. C'est Janine.
Bon, alors comme prévu, il me reste un temps. J'ai plus grand chose à dire là. Énormément de choses ont été dites. Je voudrais quand même peut-être souligner que notre atelier a commencé par l'expression d'un désespoir. Je crois qu'il faut dire le mot. Et que ça a même, en cours de route, passé par la révolte, hein, sur la base de ce qui a été vu là dans les vidéos. Toutefois, je crois que l'atelier est d'accord pour penser ce que tu disais, c'est que tout cela ne montre bien des tensions très très fortes dans le métier, concernant aussi les apprentissages des élèves, et que ça peut nous offrir des pistes de réflexion, des pistes de travail qui peuvent être très, très intéressantes, très à creuser, à reprendre même pour un certain nombre de choses qui seraient à reprendre. Alors bien sûr, je vais donc maintenant lister rapidement, simplement pour information, mais je ne vais pas les développer puisque beaucoup ont été développés là, sauf peut-être une ou deux. Tout d'abord, en ce qui concerne donc les pistes de travail, tout d'abord la nécessité de clarifier l'articulation entre le travail dans la classe et le travail hors la classe, la nature même de chacun de ces deux types de travaux, qu'est-ce qu'on fait en classe et qu'est-ce qu'on est censé faire hors la classe, c'est quoi ces devoirs, enfin c'est quoi cette aide en dehors, où apprend-on ? La question a même été posée, où apprend-on ? Également la place de la méthodologie là-dedans. Et là, on nous a rappelé que ça fait 20 ans que cette question déjà a été largement mise en avant. Est-ce que l'on peut penser en dehors des contenus? Et là, on peut s'apercevoir que la question de la méthodologie apporte une opacité supplémentaire au niveau des apprentissages pour les élèves. Ça c'est quelque chose qui est apparu très fortement. Autre chose également, la place du diagnostic et de l'évaluation du travail des élèves pour essayer de déterminer les raisons de l'échec. Qu'est-ce qui fait que les élèves échouent? Où se situe justement cet échec ou ces difficultés? Ce qui bien sûr pose la question du statut de l'erreur. Qu'en est-il de ce statut-là? Un collègue a également mis en évidence l'effet pervers de ce dispositif d'ATP concernant la façon dont l'élève peut vivre ses difficultés à l'école. Effet pervers parce que finalement il n'a pas compris en classe, là il ne comprend pas beaucoup mieux, voire même éventuellement ça l'embrouille, et au bout du compte il risque bien de se poser la question, après tout ce qu'on a fait pour moi, que suis-je, qui suis-je face justement à l'intelligence des disciplines qu'on essaye de m'enseigner. Au bout du compte, je risque d'en tirer la conclusion que je suis un bon à rien, un incapable total. C'est un risque d'effet pervers de ce dispositif qui a été signalé dans le groupe. Bien sûr, la question de la déontologie du métier a été posée. Qu'en est-il de la mission de service public de l'école sur là. Y aurait-il également des méthodes d'enseignement rares, spécifiques aux élèves en difficulté rare? Ça pose également la question, le problème des ambitions culturelles, des ambitions intellectuelles que l'on a, que l'on pourrait avoir, qu'il faut absolument continuer de réfléchir. Ambitions culturelles, intellectuelles pour tous, bien évidemment. Hein. On a cité le cas d'enseignants qui sont prêts à accepter que l'on ne fasse pas de littérature avec certains élèves. Hein ? C'est quand même quelque chose qui mérite sérieusement d'être creusé, cela. Hein ? Voilà. Et enfin, peut-être le dernier point, c'est que je voudrais juste rappeler, c'est la question de la professionnalité de tous les acteurs. Tous les acteurs, c'est-à-dire bien sûr les enseignants, les aides éducateurs, les référents, etc., les chefs d'établissement, les inspecteurs. Bref, ça ne relève pas de la seule responsabilité de chacun des acteurs dans chacun des dispositifs et dans chaque séance de travail avec les élèves. Il y a là quelque chose au niveau du collectif qui, bien évidemment, ne peut pas échapper à notre réflexion.
Ça va faire retomber un petit peu là cette grande envolée politico-déontologique. On va revenir au plus près de l'activité. Donc on revient très rapidement avec Fred et Djalila, qui est une des élèves. Alors c'est pas Sarah qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est une élève de la classe. Donc il y a quelques extraits de l'observation du film de la classe, et ce travail-là a été donné dans le retour au collectif, dans le processus d'intervention, c'est-à-dire on travaille avec une équipe d'enseignantes et à moments réguliers on fait un retour au collectif avec les gens avec lesquels on travaille, et donc on a donné ce passage-là qui est très... Voilà. Donc quatre petits épisodes. Donc il s'agit de, on est dans l'ATP et là on a Djalila qui fait son travail en maths. Elle sait parfaitement que Fred est prof de maths et donc elle va le solliciter très fortement. Hein. Donc elle lui dit, monsieur, je ne vois pas la 3A. Alors la 3A c'est une fiche méthodologique. Les élèves ont beaucoup de fiches méthodologiques. Comment chercher dans le dictionnaire, comment apprendre une leçon, comment réviser un contrôle, comment apprendre par cœur, comment des tas de fiches avec un gros classeur. Et donc parmi ce gros classeur, il y a la fiche 3A. Donc il lui dit, un élève lui dit, il est en haut, son voisin donc tente de lui montrer, le professeur donc Fred, laisse-la, quoi laisse-la, donc Djalila est excédée, tu peux trouver, tu cherches toute seule, donc Djalila proteste à haute voix, balaye de la main les documents, bon le classeur tombe de la table, etc., bref, si tu peux pas, j'ai dit non, donc il parle à l'élève, on ne va pas te donner la soupe toute ta vie, donc, et où je le trouve moi? Il n'y a pas la consigne, cherche. Donc là, voilà un petit peu entrée en matière. Donc il s'écoule plusieurs minutes, hein, et puis donc l'épisode numéro 2, qui se déroule à peu près au milieu de la 15e ou 16e minute. Donc Jalila, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire opposé par le sommet? Donc elle a un travail en maths à faire, et elle essaye de solliciter donc Fred sur cette question-là. Où est-ce que tu peux avoir la réponse? Je sais pas. Eh bien, regarde dans ton fichier, dans tes fiches méthodologiques, ça te dit où est la réponse. Donc Jalila garde la même feuille devant les yeux. C'est pas ça les fiches méthodo. Ben, c'est quoi alors? Derrière la fiche de suivi. Donc ils ont une fiche de suivi où les élèves doivent noter ce qu'ils font, ce qu'ils ont appris, le temps qu'ils y ont mis. Bon, et donc il ne répond pas à la question. Troisième épisode, là on commence à être vers à peu près la 40e minute. Le professeur revient donc vers Jalila. Tu as trouvé quelque chose, Jalila? Non, je n'ai pas cherché. Ah, tu l'as pas cherché? Non. Et qu'est-ce que ça veut dire opposé par les extrémités? Écoute-moi, mais tu ne peux pas avoir la réponse si tu cherches pas. Mais j'ai ma fiche là, donc la fiche méthodo, qui s'intitule « Où trouver la réponse à sa question ?» Ah, tu t'en fiches? Mais non, j'ai ma fiche là. Lis-la ta fiche. C'est ce qu'il y a. Il te parle d'angle opposé par le sommet là-dedans? Non. Non? Son voisin lui montre son cahier. Jalila sort le cahier. Ah, bravo Jalila, c'est bien. Tu vois quand tu veux. Donc elle sort son cahier de maths. Enfin, elle plonge sa tête, on la voit plonger la tête hein, dans son cartable. Et donc, dernier épisode, c'est qu'en travail de géométrie qu'il y a des angles opposés. Pardon? C'est qu'en travail de géométrie qu'il y a des opposés? Les angles opposés? Ah ah, les angles opposés, a priori. Il y a des chances pour que ça soit en géométrie, oui. Mais que dans ça? Ben, tu peux regarder, regarde dans ton sommaire. Je vais pas le faire à ta place. Non, mais s'il y avait 50 mots à chercher, mais s'il y a un mot à chercher parmi 50, c'est un maximum. Bien. Donc voilà la fiche, on voit pas très bien, hein. Voilà la fiche. Donc je ne sais pas si vous percevez tout à fait la question de Jalila. Hein, à la fin, c'est qu'elle n'est pas absolument certaine que les angles opposés, ça soit quelque chose qui relève des mathématiques. Et donc, en fait, quand le professeur lui demande d'aller chercher aussi le cahier, elle ne sait pas quel est le cahier qui correspond à l'exercice qui est écrit sur le cahier de texte. Hein. Donc, ce travail-là a été donné, je dirais, a donné à retravailler dans le collectif d'enseignants ATP. Je vous dis pas à quel point ça a souligné, ça a mis en place de la controverse entre les enseignants, puisque là, visiblement, on a donc ce qu'on reprend tout à l'heure hein, sur l'accompagnement. Donc l'idée très militante de Fred, du collègue, qui considère que, compte tenu de la compétence 7 du socle commun, il est là, entre autres choses, pour permettre aux élèves de construire progressivement une autonomie face justement à l'organisation de leur travail personnel. Et pour lui, cette autonomie passe irrémédiablement par des fiches méthodologiques qui vont aider l'élève à savoir quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Donc, la réponse qu'il est en train de fournir à Jalila est la suivante. Quand j'ai une question, où puis-je trouver la réponse? Alors, je vous lis, hein, la réponse de ma consigne peut être, donc, sous mes yeux dans l'énoncé, dans ma tête et dans l'énoncé, etc. Donc, vous voyez, quand il lui dit, alors, est-ce que ça t'aide à répondre à la question des angles opposés? Ben, elle lui dit tout simplement non. Bon, alors c'est aussi un petit peu le travail qu'on voulait susciter avec vous, hein, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle on a choisi aussi Sarah au début, qui récite un discours institutionnel, et on voit bien que ces élèves, y compris les élèves dont la parenté, j'ai trouvé l'expression de Patrick, dont la parenté est la plus éloignée de la forme scolaire possible, hein, y compris chez ces élèves-là, il y a une très grande connaissance du discours institutionnel. En tous les cas, ce qu'elle dit, hein, je prends ma leçon, alors avec un discours très ordonné, avec une série très ordonnée de gestes de l'étude, je prends ma leçon, puis je prends l'exercice, et puis je vais faire des exercices supplémentaires. Donc on a toute cette maîtrise du discours, et pour autant, cette maîtrise du discours ne permet pas à ces élèves ni de réussir leur contrôle de mathématiques, Sarah a eu 1,5, ni à Jalila d'avoir la première réponse à sa question, est-ce que les angles opposés relèvent bien du domaine mathématique? Alors vous voyez, là on est très loin des exercices et des résolutions de problèmes et du réinvestissement des notions mathématiques, hein. Là on est effectivement sur des questions matérielles et des questions de sens et de compréhension de discipline, avec un collègue qui tente de donner une réponse qui est un entraînement méthodologique. Et puis Alban qui va redire dans le film, hein, prenons l'exemple mathématique ou d'histoire. Et cet exemple-là ne vient jamais en réalité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, depuis le 31 janvier, depuis septembre jusqu'au 31 janvier, à aucun moment les enseignants, pour l'instant, ont décidé de prendre ce cahier de mathématiques et de dire tant pis pour la montée en généralité, tant pis pour la méthodologie. Au plus près de ce cours de mathématiques et de cette leçon, on va regarder comment cette leçon-là peut être travaillée. Donc là, dans l'aide et l'accompagnement, tout à l'heure on demandait un petit peu, on a donc une équipe pédagogique qui s'empaille en fait, hein, sur les uns qui disent il faut permettre aux gens de savoir poser des questions et c'est à ça que l'école doit préparer les élèves. Ils n'auront pas toujours les réponses, il faut leur apprendre à poser des questions et à trouver des réponses à leurs questions. Donc vous voyez, c'est pour ça que je parlais d'un côté très militant. Et puis on a d'autres, de manière caricaturale, à l'opposé je dirais, des enseignants qui sont là pour dire finalement ils ont des devoirs à faire et accompagnons-les dans les devoirs, dans la réalisation des devoirs, sur des questions très, très petites et très locales. Voilà. Donc là, il y a un premier point, et vous voyez bien pourquoi, si on revient au tout début, dans l'instruction au sosie, hein, donc il dit, tu vas dire donc à l'instruction au sosie, je vais te remplacer demain au pied levé, je dois te remplacer au pied levé dans cette réunion avec les collègues. Donc la fonction essentielle de l'ATP, qu'est-ce que je leur dis? Donc ligne 474, hein, notre instruction a duré très longtemps, c'est l'accompagnement, ce n'est pas de l'aide. Beaucoup d'enseignants font de l'aide au devoir, alors que c'est l'accompagner pour qu'il arrive à mettre des mots, à mettre du sens derrière ses apprentissages. C'est un temps pour expérimenter avec l'élève, pour voir ce que c'est que le travail personnel, comment ça fonctionne. Il faut, tu leur diras, hein, il faut éviter d'entrer dans l'intervention disciplinaire, essayer de faire en sorte que le gamin trouve seul la solution à son problème, soit à travers les fiches ATP, ou alors en le questionnant sur comment est-ce qu'il pourrait arriver à résoudre ça seul. Donc là, on a aussi tout le travail, vous voyez, en filigrane, de, vous avez parlé de métacognition, hein, c'est-à-dire la solution qui permettrait de construire justement à la fois du sens, hein, et tout le travail en fond de c'est quoi l'autonomie? C'est quoi l'autonomie? Et comment l'enseignant prépare l'élève à cette autonomie sur ce pilier 7 du socle commun, hein. Comment est-ce qu'il pourra arriver à résoudre ça seul, donc cette histoire de solitude là, hein, qui est intéressante aussi à travailler. Et là les profs, ils freinent des quatre fers, et je ne sais pas s'ils se rendent compte de la puissance de l'outil. Donc pour lui, là, il y a vraiment une espèce de déchirement avec cette impossibilité pour lui de faire comprendre aux enseignants que ce qui est fondamental pour un élève, c'est moins qu'il sache résoudre ou construire des angles opposés que de comprendre là où il va pouvoir poser des questions et trouver des réponses à ces questions. Voilà. Et de mettre ses mots, hein, il le dira plusieurs fois, hein, mettre des mots sur ses apprentissages, donc vraiment ce retour là sur la métacognition et une réponse dans l'individualisation pour construire justement ces apprentissages, le sens et cette autonomie. Voilà un petit peu là, vous voyez que bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que finalement on est entré avec ses collègues sur une question qui nous paraissait à un moment donné périphérique, parce que effectivement, comme tu le soulignes, il y avait dans l'établissement des tas d'autres questions qui paraissaient beaucoup plus importantes, notamment des dispositifs d'inclusion, exclusion d'élèves, et donc qui paraissaient beaucoup plus centrales au niveau de l'établissement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à travers ce dispositif, qui est un vieux dispositif, finalement, ça fait très longtemps qu'on réfléchit sur cette question de l'aide ou des devoirs, finalement, on est arrivé là au cœur du métier avec des enseignants qui, justement, nous demandent à un moment donné si l'on peut travailler avec eux et construire ce qu'ils appelle un cahier des charges qui justement refermerait légèrement hein, l'ouverture de ces prescriptions où ils ont le sentiment qu'on peut faire tout et n'importe quoi et qui donnerait finalement quelque chose qui leur permettrait de s'inscrire dans une culture commune de ce que c'est que faire apprendre une leçon ou faire apprendre ou faire réviser un travail. Voilà. Et ça, c'est dans toute la circo, hein, la demande qui est posée ici.
Oui, juste quelques remarques avant de vous laisser réagir pour dire à quel point ça fait écho à un aspect qui a été du travail en ATP qui a été soulevé dans l'atelier dont Luc n'a pas directement rendu compte. C'est un reproche, mais parce que... non, je plaisante. Mais une collègue disait, une collègue en est venue à se poser la question, mais finalement, la métacognition, je cite de mémoire hein, ce qu'elle disait, avec des élèves en difficulté, c'est pas si évident que ça, et peut-être que c'est une pratique à réinterroger. Et je pense qu'effectivement, là, on a matière à alimenter ce questionnement, hein, et y compris à déconstruire un peu des allants de soi, hein, qui organisent quand même le travail qu'on fait aussi bien en classe qu'en ATP, sur, par exemple, ce qu'on pourrait appeler des dérives méta, hein, une hypertrophie du méta, qui peut conduire, quand on pousse jusqu'au bout, à s'interdire d'enseigner, par exemple. Donc sur la question qu'on posait, qu'est-ce que ça veut dire aider à apprendre? Est-ce que aider à apprendre, c'est pas aussi enseigner à certains moments? Il y a une forme d'interdiction d'enseigner qui organise l'activité de Fred en ATP et dont on voit bien à quel point elle peut être contre-productive, aussi bien pour les élèves, parce que dans l'instruction au sosie, à un moment donné, il dit « je me rends compte que les élèves, ils comprennent rien ». Donc en direction des élèves, en direction des collègues qui freinent les quatre fers et qui comprennent pas la puissance de l'outil, et en direction des parents, là on est bien sur les dimensions collectives hors la classe, hein, en direction des parents, il rapporte dans l'instruction sosie, il dit, il y a une mère qui est venue me voir et qui me dit, mais qu'est-ce que vous faites à l'ATP? Vous l'aidez à faire ses devoirs parce qu'il comprend pas. Il dit, non, je suis pas là pour ça. Il dit, ben alors je l'envoie plus parce que si vous l'aidez pas à faire de devoirs, je vois pas bien à quoi ça sert votre travail. Oui, c'est la façon dont il radicalise une position qui génère plein de malentendus dans toutes les directions de son activité, en direction des élèves, des collègues et des parents, et de sa propre activité, c'est-à-dire qu'il empêche de bouger. Sauf que justement, bon, ce qu'on a essayé de faire, c'est voir comment la confrontation à ça peut à la fois le faire bouger lui, mais aussi nourrir de la controverse dans le groupe de profs, parce qu'on s'est rendu compte, par rapport là aussi, ça fait quoi, une deuxième remarque qui était faite dans l'atelier, sur le problème de communication hein, qui est évoqué par Virginie, on communique pas, etc. En réalité, il met en place des moments formels d'échange, mais ces moments, ils sont pilotés par la pensée unique, quoi. C'est-à-dire qu'il est convaincu de détenir la bonne manière de faire. Du coup, il n'y a pas de controverse, et du coup, ça ne fait pas bouger les collègues. Ça produit même des mécanismes de défense des collègues qui font tout pour ne pas se retrouver sur le terrain sur lequel ils veulent les amener, quoi. Donc, je crois que là, il y a aussi, du point de vue de la formation, un exemple intéressant de matériaux qui peut justement, et troisième point qui renvoie à une discussion qu'on a eue, comment enrôler les enseignants dans un processus de développement du métier. On peut entrer par le haut, par les savoirs, par la recherche, mais on se rend compte que ça bloque souvent le processus. On peut rentrer par l'activité et par les questions qu'elle soulève, les tensions, les contradictions, la controverse, et là, se servir à nouveau des savoirs de la recherche, mais d'une autre manière, pour alimenter la controverse autour des points de tension, des contradictions, etc.
Par rapport à ce que disait Janine tout à l'heure, tu as démarré en disant on est passé du désespoir en passant par la révolte. Bon, la révolte, à la limite, c'est aussi une manière de se dire que les enseignants ne sont pas résignés non plus, hein, ou qu'ils ne se résignent pas. Sur le désespoir, là, dans le cas de Fred et dans l'instruction au sosie, il parle de Fred par le.
Alors, c'est Fred, c'est, ouais, c'est pas Fred. Hein.
Donc là, Fred Soja parle de ces différents pôles de l'activité. On avait même pointé le pôle de l'usage de soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'instruction au sosie, il me dit, bon, et puis ces fiches méthodo, de toute façon, on le sait, ça ne marche pas. Donc c'est pas efficace. Et des fois, on est même tenté d'aider vraiment les élèves. Donc tout à l'heure, on parlait on parlait des compromis que les enseignants sont tenus d'opérer entre justement ces prescriptions et ce que là il y a une surprescription dans le sens de la pression sociale, en sachant que finalement l'organisation très efficace d'un travail personnel est à tous les coups le vecteur de la réussite scolaire. Donc il y a à la fois une surprescription, en tous les cas une pression sociale très forte qui pèse chez tous ces enseignants qui sont très engagés, même si interpersonnellement ils se télescopent, hein, mais il y a un véritable engagement de ces collègues-là qui sont présents dans ces réunions, et à la fois ils sont obligés donc de passer des compromis avec cette surprescription prescription ou cette surpression sociale et cette faiblesse ou cette trop grande ouverture de tout ce qui serait possible de faire. Voilà. Donc là, on a eu une réaction, par exemple, dans les journées de formation avec Vincent et Fred, une jeune collègue néo-titulaire qui, à l'issue d'un travail un petit peu comme ça qu'on avait construit, dit « Mais alors, finalement, l'institution n'a aucune réponse à nous donner. » Alors, bon, un moment de blanc. Elle dit « Mais moi, je ne suis pas rentrée dans ce métier pour tout inventer. Je croyais que l'institution pouvait me donner aussi une ligne de conduite. » Et il y a eu là un moment, tu parles de désespoir, mais un vrai moment de désespoir chez cette collègue et de souffrance en se sentant abandonnée par l'institution qui ne leur permettait pas non plus de construire cette culture commune. On parlait de sécurité hier aussi, c'est-à-dire d'avoir une certaine protection hein, de l'institution qui vient aussi éponger ou épauler en tous les cas les choix que les gens font. Et ton intervention me permet également de rebondir. Je crois que la demande des collègues avec lesquels on travaille sur l'ensemble du réseau de Marseille, hein, c'est très souvent l'appel, ils demandent à ce que les IPR viennent, bon, et je sais que Vincent œuvre dans ce sens, mais il demande que les IPR viennent au moins pour, à un moment donné, valider le travail qu'ils sont en train de faire. Quand bien même
ou les valider.
Mais quand bien même ce travail ne serait pas exactement celui qui est en attente à l'institution, que l'institution se manifeste et qu'elle dise des choses sur ce qu'ils sont en train de faire. Et là, il y a une demande très forte qui est en train de s'organiser autour de ça. Bon, d'où à nouveau hein, cette réflexion qu'on peut conduire sur la trop grande ouverture de la prescription ou des sous-prescriptions. Bon.
Qui rejoint juste, je donne tout de suite la parole à Dominique, qui rejoint une question que j'évoquais hier dans le petit moment de cadrage qu'on a fait avec Patrick, qui est le problème de la qualité du travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'une des questions qui est la plus lancinante aujourd'hui pour les collègues, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire du bon boulot ? Est-ce que je fais du bon travail ou pas ? Et je suis systématiquement renvoyé à moi-même par rapport à cette question-là, avec ce sentiment qui est vraiment aujourd'hui, à mon avis, très largement partagé, que en quelque sorte, chacun est condamné à errer tout seul devant toute l'étendue des bêtises possibles. Je reprends la formule à un collègue ethnologue, je trouve très éclairante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus finalement de répondant. On est renvoyé à soi-même, par rapport à des arbitrages très coûteux dont on passe son temps à se demander si ils ont reposé sur les bons choix, etc. Quoi. Je crois que là, il y a un vrai problème à prendre à bras le corps, quoi, de redynamiser, notamment dans les dimensions collectives nécessaires, redynamiser ce rapport au métier à travers une mise en discussion, une mise en controverse, mais dans laquelle l'institution doit aussi jouer son rôle, c'est-à-dire qu'elle est là aussi pour évaluer, pour valider, voire pour invalider en disant, là, il nous semble que c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait s'y prendre et alimenter la discussion sur des bases d'évaluation, y compris externes. Quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des évaluations qui peuvent se faire entre pairs, horizontalement, et qui permettent de se donner des règles de métier, mais il faut aussi qu'il y ait des règles fixées par la prescription, l'institution, parce que le métier, il s'apprend à plusieurs voies. Quoi. Il s'apprend avec les collègues, mais il s'apprend aussi avec le métier prescrit, etc.